RT Cool. La radio. School. Toto, nous allons vérifier si tu connais bien ta leçon sur les mesures. Toto, qui a-t-il au-dessus du décilitre?
Le litre, maîtresse.
Bravo, Toto. Et au-dessus du litre?
Le bouchon.
Voilà, la blague est terminée.
Mais les plaisanteries les plus courtes sont les...
moins longues.
Salut, c'était...
Manon, la maîtresse de Toto.
Et Paul, Toto.
Mandelieu-la-Napoule,
Istanbul,
Risoul,
Frioul,
Liverpool,
Banjul,
Aknoul,
La Bourboule,
Toul,
Blackpool,
Séoul.
Des endroits, il y en a une foule.
Sur RT Cool.
Salut Emeric.
Salut Capucine, je pars aux Émirats Arabes Unis, mais j'ai un trou de mémoire sur ce pays.
Alors, si tu as un trou de mémoire, c'est l'occasion de découvrir un peu le pays. Les Émirats Arabes Unis sont un État fédéral créé en 1871, situé au Moyen-Orient entre le Golfe Persique et le Golfe d'Oman.
Ah oui, je me souviens, sa capitale est Abu Dhabi, mais la plus grande ville est Dubaï. Elle compte 2 322 000 habitants. Abu Dhabi en compte 599 773.
Les Émirats Arabes Unis comptaient 8 264 007 habitants en 2010, dont 7 316 073 étrangers, soit 88,5% de la population.
La moitié de la population des Émirats est originaire du sud-continent indien. Le reste provenant des pays arabes, d'Iran et d'Asie du Sud-Est.
Le pays partage 530 km de frontières terrestres avec l'Arabie Saoudite au sud et au sud-ouest et 450 km de frontières avec Oman au sud-est et au nord-est.
Sa superficie est de 77 700 km².
Les Émirats comptent parmi les plus importants producteurs et exportateurs de pétrole au monde.
Les principales réserves gazières et pétrolières sont dans l'émirat d'Abu Dhabi, déjà membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.
Tu te souviens, il y a Anouk aux Émirats Arabes Unis?
Ah oui, c'est vrai.
Et si on lui faisait un petit coucou?
Ok, salut Anouk.
Ouais, salut Anouk.
J'espère que ça lui a plu.
Moi, j'aimerais bien y aller.
Bah, moi, j'y vais.
Nos sources sont
Wikipédia et un dictionnaire Robert. Bon, j'y vais, mon avion va décoller.
Tu me prends avec toi?
Avec plaisir, Capucine. Viens, il va partir.
Salut, on vous laisse, on doit aller faire nos valises.
Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour la bonne idée de la semaine.
Tu sais, Alix, ce week-end, j'ai visité une grotte.
Et c'était bien?
Oui, j'ai vu beaucoup de stalactites et de stalagmites.
À ce sujet, sais-tu fabriquer des stalactites?
Bah non, ça se forme en plusieurs siècles.
Eh bien, sache que tu peux en faire chez toi entre 15 et 20 jours.
Ah oui? Et comment?
C'est simple. Tout d'abord, il faut faire fondre 3 cuillères à café de sel dans un verre, puis recommencer avec un second. Le sel va se déposer au fond des deux verres. Il faut ensuite remettre un bout de laine à cheval entre nos deux verres. Il doit tremper au fond. Ainsi, au bout de 15 à 20 jours, des stalactites de sel se formeront là où l'eau goutte, comme au plafond d'une grotte. Au revoir, c'était Alix et Eva sur RT Cool pour la bonne idée de la semaine.
Salut les auditeurs, c'est Clémentine
et Mohamed pour le moment des sciences.
Mais non Mohamed, on est là pour le perso histo de cette semaine qui est Louis XVIII.
Né à Versailles en 1755, mort à Paris le 16 septembre 1824,
Louis Stanislas Xavier de France,
comte de Provence et le petit-fils de Louis XV
et le frère de Louis XVI et du comte d'Artois.
Futur Charles X, en 1771, il épouse Marie-Joséphine de Savoie.
Leur union ne donnera aucun enfant.
Lors de la fuite du roi à Varennes, le 21 juin 1791,
le comte de Provence doit quitter la France.
Il semblerait qu'il soit compromis avec le marquis de Favra dans le complot ayant pour but la discréditation de son frère Louis XVI.
Il va donc gagner Bruxelles, puis Coblence. Il se proclame lieutenant général du royaume.
Puis, après l'exécution de Louis XVI,
le 21 janvier 1793, il prend le titre de régent.
Opposé à la Révolution, il proclame son neveu Louis XVII, roi de France.
À la mort de ce dernier, le comte de Provence devient aux yeux des royalistes le nouveau roi de France.
Sous le nom de Louis XVIII. Résidant alors à Vérone,
l'irruption des Français en Italie l'oblige à se réfugier en Allemagne, puis dans les États du Tsar.
À Varsovie et à Mito, enfin en Angleterre, au château de Hartwell en 1807.
Il se fait appeler alors le comte de Lille.
Seule la chute de Napoléon permet la restauration de la monarchie bourbonienne, soutenue par la Grande-Bretagne et agréée par le gouvernement provisoire présidé par Talleyrand. Louis XVIII entre dans Paris le 3 mai 1814.
Accueilli avec soulagement par une grande part de la nation comme garant d'un retour à la paix avec l'Europe et de la fin de la dictature militaire.
Lors de la première restauration, la plupart des fidèles de Napoléon, dont Fouché, conservent leur poste.
Le 20 mars 1815, Napoléon entre dans Paris par la barrière d'Italie pendant que Louis XVIII s'enfuit par la barrière de Clichy.
Ce dernier va s'exiler à Gand pendant la période que l'histoire appellera les 100 jours, le 18 juin 1815.
Les rêves de Napoléon s'effondrent. C'est la défaite de Waterloo. Le 22 juin, il est contraint d'abdiquer et est exilé à Sainte-Hélène.
Louis XVIII, roi de France de 1814 à 1824, renforce progressivement la monarchie. La guerre en Espagne, où la France intervient pour sauver le régime des Bourbons, est le dernier événement important du règne. Louis XVIII meurt le 16 septembre 1824, après avoir béni sa famille.
Salut, c'était...
Le moment des sciences.
Mais non, tu as oublié, c'était le perso Histo. À la semaine prochaine sur RT Cool.
Le moment
des sciences.
Moteur, ça tourne.
Salut, c'est Lucas.
Et Thomas sur RT Cool pour le moment des sciences qui sera dédié à la caméra.
Thomas, comme tu t'y connais bien en film, peux-tu me dire plus sur la caméra ?
Oui, Lucas. Une caméra est un appareil de prise de vue destiné à enregistrer ou à transmettre des images photographiques successives afin de restituer l'impression de mouvement pour le cinéma, la télévision, la recherche, la télésurveillance ou encore l'imagerie industrielle ou médicale.
Ah oui, moi je connais deux types d'appareils comme une caméra argentique qui utilise une pellicule photographique comme support d'enregistrement, une caméra haute vitesse qui est utilisée pour enregistrer les objets se déplaçant rapidement afin de les visionner au ralenti, une caméra numérique qui enregistre ou transmet un signal électronique numérique.
N'oublie pas la caméra sans fil qui transmet un signal électrique par l'intermédiaire d'ondes radioélectriques grâce à un émetteur et une antenne.
Nous avons décidé de vous présenter ce moment des sciences.
Car nous avons déjà tourné plusieurs films et parce que la caméra est indispensable pour les réaliser.
Nos sources sont un dictionnaire Larousse et Wikipédia.
Au revoir et à la semaine prochaine sur RT Cool.
Et coupez.
Había una vez.
Once upon a time.
Ixe.
Era un bebé.
Kanyamakan.
Il était une fois.
La phrase de la semaine.
Salut, c'est Valentine.
Et Valentin sur Arte Cool.
Pour la phrase de la semaine.
Valentine, comment dit-on en anglais « Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux du monde » ?
On dit « Happy Valentine's Day to all the lovers in the world ».
Merci Valentine.
Salut et à la semaine prochaine sur Arte Cool.
Le coin du musicien.
Bonjour, c'est Nathan et Rémi sur Arte Cool pour le petit coin du musicien, car l'instrument du jour est le banjo-lélé.
Le banjo-lélé, aussi dit banjo-ukulélé ou banjo-yuk, est un croisement entre le ukulélé et le banjo.
Pour connaître son histoire, nous allons parler du ukulélé et du banjo. Pour commencer, le ukulélé est né à Hawaï. C'est un petit instrument à cordes pincées.
Il est devenu à la mode au début du XXe siècle. Le ukulélé fut rapidement adopté par le jazz.
Maintenant, le banjo. À l'origine, le banjo était joué par les esclaves noirs des États-Unis.
En 1883, Joel Sweeney ajouta aux quatre plus hautes cordes une cinquième corde plus basse que les autres.
Et pour finir, le banjo-lélé. Il fut inventé autour de 1917, mais c'est dans les années 1920 et 1930 qu'il connut le plus de succès.
Le banjo-lélé se joue exactement comme un ukulélé, sauf qu'il a la forme et la puissance sonore du banjo. Il a été créé car beaucoup de personnes appréciaient le uk, mais que certains voulaient un instrument plus sonore.
Maintenant que vous connaissez mieux son histoire, je vais vous jouer un morceau « Over the Rainbow » popularisé par Israel Is IL.
Nos sources sont
Wikipédia,
l'histoire du banjo.fr
et banjoyuk.com.
Nous espérons que le banjo-lélé vous a plu. À la semaine prochaine pour de nouveaux instruments.
Le moment des sports.
Salut, c'est Eunice,
Amalia
et une championne de natation sur RT Cool pour le moment des sports. Pour commencer le bain, nous allons interviewer une championne de natation. Amalia, comme je fais de la natation, est-ce que tu peux me renseigner ?
La natation, c'est un sport consistant à nager. Et c'est aussi la méthode qui permet aux êtres humains et à certains animaux de se mouvoir dans l'eau, sans aucune force propulsive que leur propre énergie corporelle.
Amalia, je ne suis pas bête, tu peux me dire autre chose.
La natation regroupe des activités diverses, comme le déplacement à la surface de l'eau et sous l'eau, le plongeon ou les jeux pratiqués dans l'eau. Elle se pratique en piscine, en eau libre, lac, mer, etc. La natation demeure un sport accessible à tous. L'offre en matière d'activités sportives, aquatiques est large, et tend à se diversifier encore davantage, qu'il s'agisse de l'aquagym, de l'aquabike, du yoga aquatique ou de la simple nage. Toute personne peut pratiquer un sport dans l'eau. La natation est un sport olympique depuis 1896 pour les hommes et depuis 1912 pour les femmes. Les équipements pour faire de la natation sportive sont un bonnet, un maillot de bain, à une pièce, des lunettes.
Le bain est fini. On s'est séché, donc au revoir.
Étymologie, la biographie des mots.
Salut, c'est Chiffre
et nous sur RT Chiffre.
Et aujourd'hui, nous faisons l'étymologie des mots. Et vous l'avez deviné, c'est le chiffre.
Et le nombre qui vous parle.
Je suis née, moi, le chiffre, et on m'a appelée Cifre en arabe, et quant à l'adolescence, on m'appela en latin Cifra. Maintenant que je suis adulte, on m'appelle en français Chiffre. J'ai un tonton qui s'appelle Chiffré et des cousins qui s'appellent Chiffrement et Chiffreur.
Et moi, le nombre, je suis né du latin numerus et mon deuxième prénom est numerae qui veut dire compter en latin. Aujourd'hui, on m'appelle en français Nombre. J'ai un frère qui s'appelle Enumerar. Mon père s'appelle Numeratio. Ma sœur s'appelle Enumeratio. Et ma mère s'appelle Numerabilis.
Salut, c'était Inès.
Et Mathieu sur RT Cool.
La radio at school.
Et à la semaine prochaine
pour un nouveau mot. Salut, c'est Inès.
Et Johan sur RT Cool. Et on va présenter quoi déjà ?
Bah, le son mystère. Ça fait 10 fois que je te le dis.
Ah oui, c'est vrai.
Un peu de sérieux. Et maintenant, le gagnant de la semaine dernière sont...
Milan et Philippe Hirsch.
Eglise Del Rio.
Agathe Catonnet.
Bravo à tous ceux qui ont participé.
Le son de la semaine dernière était bien celui d'un trousseau de clés que l'on secoue.
Et maintenant, le son mystère de cette semaine est...
Si vous avez trouvé, répondez-nous sur
son-mystère.sem2@labos.net.
Les gagnants seront cités dans la prochaine émission.
Bon bah, au revoir et à la semaine prochaine sur RT Cool.
Et un conseil,
déguisez-vous car aujourd'hui
c'est Mardi Gras.
RT Cool, la radio
à school.
At school.